Bonjour, vous êtes sur Offensive Sonore, l'émission mensuelle du groupe Offensive Libertaire et Sociale. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission en soutien à la Palestine. En effet, après les grandes manifestations pour la Palestine du mois de janvier, les grands médias sont déjà passés à d'autres sujets. Nous ne les oublions pas, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons revenir sur leur situation dans cette émission. Cette émission est une rediffusion d'une émission réalisée par des camarades de l'OCL de Reims, et qui a déjà été diffusée le 5 janvier 2009 dans l'émission Égrégore sur Radio Primitive. Cette émission en deux parties vous propose un retour sur le conflit entre Israël et la Palestine à la veille des élections du 11 février 2009. Dans la première partie, vous entendrez le témoignage de Patrick, un internationaliste de retour de Naplouse, ainsi que celui de Gaël Namti, qui est israélien et membre du collectif Anarchist Against the Wall, qui nous parle de la situation en Israël en septembre 2008. Dans la seconde partie, nous retrouvons Gaël, qui reviendra sur la création du collectif des anarchistes contre le mur, et sur les actions qu'il mène en Israël depuis sa création en 2003.
On va consacrer notre émission ce soir à ce qui se passe en Palestine, avec entre autres et surtout l'opération plomb chargé, l'opération donc de l'État d'Israël contre Gaza. Ça s'appelle l'opération plomb chargé.
C'est pas plomb durci ? Non, c'est plomb chargé.
Plomb chargé, oui, oui. Donc comme on le voit, le plomb...
Non, c'est plomb durci.
C'est plomb durci.
Ah bon. Bah moi j'ai lu plomb chargé dans un site...
C'est pas très grave.
C'est toujours aussi débile, quoi. Faut vraiment être con aux militaires pour donner des noms comme ça.
Tout à fait. Alors bon, ce qu'il faut savoir tout de même, alors moi je crois que il y a des choses qu'il faut être très clair, quoi. Pour nous, c'est une guerre d'occupation. On peut le dire de type colonial, c'est moins qu'on puisse dire, où effectivement le peuple palestinien est nié depuis le début, on peut le dire aussi. Il est très difficile d'ailleurs d'avoir de la contre-information dans la grande presse, au niveau de la télévision, etc. C'est, on peut dire, à sens unique. D'un côté, à vous rendez compte, hein, il y a le Hamas, c'est des méchants, le Hamas c'est des islamistes, le Hamas fait des morts, bon, 5 vous me direz, alors que Israël en est à plus de 500 tués, plus de 500 Palestiniens aujourd'hui, en quelques jours. Bon, 500, ça gêne pas le journal de base, ça gêne pas non plus un certain nombre de blancs occidentaux qui veulent mettre les deux choses sur le même plan, alors que ça n'a strictement rien à voir. Heureusement, on tombe sur des bons textes tout de même sur Internet. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Il s'appelle « Des barbares bombardés à Gaza, construire l'ennemi ». C'est un texte qui date du 1er janvier et qui est signé par Mona Chollet. Je vais simplement vous dire un petit peu des extraits de ce texte. Dans son introduction, il rappelle quand même ce qui s'est passé pendant l'apartheid en Afrique du Sud, où il le disait dans un livre, un certain Todorov dit, rappelait que quand on demande aux policiers et aux militaires sud-africains pourquoi au temps de l'apartheid ils ont tué ou infliger des souffrances indicibles, il répondait « pour nous protéger de la menace que les Noirs et les communistes faisaient peser sur notre communauté ». C'est exactement le même discours que nous sort Israël actuellement. Ensuite, dans ce texte, il y a tout un chapitre intéressant, je crois que le titre suffit en lui-même, « Transformer le faible en fort et le fort en faible », c'est ce qui se passe au niveau médiatique aujourd'hui. Israël passe non pas pour l'agresseur mais pour la victime, c'est quand même joli. Hein. Ensuite, il y a quand même une espèce de symétrie entre Israël et puis le Hamas qui se fait. Et ensuite, bien évidemment, il y a le fameux intégrisme. Et en fait, on constate, comme le texte le dit, à côté de l'intégrisme musulman, les intégristes, alors juifs et chrétiens, donnent l'impression de phénomènes complètement marginaux, plutôt folkloriques, en tout cas sans conséquences, évidemment. Alors, il y a aussi, après, dans un autre chapitre, il reprend quelque chose qui a été dit par un journaliste, ça existe, qui font du bon boulot, Charles Anderlin, qui a dit en 2004, Israël fera la paix quand les Palestiniens seront finlandais. Effectivement. Alors, la base, finalement, c'est l'existence même du peuple palestinien qui gêne, effectivement, Israël. Il faut rappeler quand même que Golda Meir disait « Les Palestiniens, qui sont-ils ? Ils n'existent pas. » Voilà, ça se passait donc dans les années 50 en Israël, et c'était l'une des figures du sionisme de cette époque. Et je pense aussi que encore maintenant, il y a des tas d'Israéliens pour lesquels les Palestiniens n'existent pas.
Ah, mais il y a également des tas d'Israéliens pour qui se battent aussi pour
on y
autre
reviendra.
Chose.
On en entendra
tout à l'heure.
Bien sûr. Alors ensuite, le texte dont je vous parle aussi des commentateurs occidentaux qu'on peut entendre aujourd'hui à la télévision, qui évoquent les sanglants attentats suicides, mais qui parlent jamais de la sanglante occupation, ou tout au moins très très rarement. Et ensuite, le texte se termine par quelque chose que je vais vous lire, parce que c'est quand même finalement certainement le nœud du problème. La divergence des points de vue s'agissant du Proche-Orient est particulièrement exacerbée. Tout au moins chez nous, hein, en Occident. D'un côté, des Occidentaux, profondément marqués par le génocide des Juifs d'Europe, et que le double ressort d'une mauvaise conscience mal placée et d'un vieux complexe de supériorité raciste conduit à accorder à Israël un chèque en blanc moral. De l'autre, des pays, des communautés, des individus épars, marqués par toute une autre histoire, ou pas d'ailleurs, qui ne comprennent pas pourquoi que c'est aux Palestiniens de payer les crimes commis par des Européens. Voilà le texte de Mona Chollet. S'il vous intéresse, il n'y a pas de problème, je peux vous l'envoyer.
Je crois que dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire et important de faire de la politique et d'analyser le problème en termes politiques. Alors tu l'as dit, une des choses les plus importantes, c'est de ne pas mettre un signe d'égalité entre d'un côté Israël et de l'autre côté les Palestiniens qui seraient aujourd'hui incarnés ou représentés par le Hamas et qui seraient lui-même, le Hamas, incarné dans les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. C'est ça. Non, ça c'est
fatal, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Enfin, en tous les cas, ce tir de roquette, hein, puisque malheureusement, il faut aller voir du côté de la presse anglo-saxonne. On le disait bien, en 10 ans, les tirs de roquette ont fait une vingtaine de morts. Mmh. Hein, c'est ça.
Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a une pétition qui circule actuellement et que le village qui est le plus touché en Israël par les tirs de roquette, qui s'appelle Xerot, il y a 500 personnes qui ont déjà signé cette pétition.
Qui demande l'arrêt des bombardements d'Israël.
D'Israël sur Gaza. Gaza.
Donc alors justement, tu en parles, et là on va en parler sur le reste de l'émission. Ce qu'on nous dit pas en Occident, évidemment, c'est que hier, dimanche, donc on était le 4 janvier, il y a eu 10 000 personnes qui ont manifesté contre la guerre à Tel Aviv. Et dans ces 10 000 personnes, il y avait évidemment des Palestiniens d'Israël, mais il y avait aussi des Juifs d'Israël. Ça, généralement, on n'en parle pas, puisqu'il y a consensus. Il n'y aura plus consensus quand il y aura trop de morts, nous dit-on. Quand il y aura trop de morts au niveau israélien, au niveau des militaires, là, il y aura peut-être plus consensus au niveau de la. Mais on nous dit pas qu'effectivement, en Israël même, il y a une résistance contre cette guerre.
Je crois aussi que c'est vachement important la question de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des journalistes, alors je le redis encore, majoritairement quand même dans la presse française, puisque dans la presse anglo-saxonne, on peut avoir des points de vue différents et puis des analyses un petit peu plus conséquente, mais je pense aux journalistes, notamment aux médias de la télévision, qui sont interdits donc d'entrer dans Gaza, qui ont également une interdiction par rapport à un périmètre de sécurité très très important, et qui par rapport à cette interdiction là et à leur manque d'accès à l'information n'ont aucun recul critique, c'est-à-dire que l'information et la propagande de l'armée israélienne se fait pratiquement sans coup férir,
comme d'habitude. Toutes les guerres, Irak, etc.
Tout à fait.
Afghanistan.
Et ils refont encore une fois le coup du journaliste embarqué ou de la vulgate de l'armée. Il y a également toute la partie géopolitique qui mériterait de s'arrêter là-dessus pour pouvoir comprendre comment on en est arrivé à cette situation-là et pourquoi est-ce que c'était samedi, je crois, ou vendredi, peu importe, le Conseil de sécurité a bloqué toute possibilité, ne serait-ce que d'une résolution de condamnation, ou en tous les cas, cette fameuse communauté internationale, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle est tellement apathique par rapport à la situation. Bon, il y a Sarkozy qui va aujourd'hui en Égypte, je crois, c'est ça.
Donc on verra bien. En Égypte et Ramallah.
Ouais, bon.
Si Ramallah, mais
je pense pas que ça n'a aucune importance, effectivement. Et puis, il faudrait également analyser la situation aujourd'hui sous l'angle historique et voir comment on est arrivé à cette situation. C'est-à-dire, comment est-ce que le Hamas est arrivé au pouvoir ?
Démocratiquement en plus,
tout à fait.
Et élu démocratiquement, c'est ça, faut le dire.
D'ailleurs, c'est à ce niveau, au niveau du Hamas, qu'on en parle beaucoup. Il y a aussi des textes intéressants qui circulent, qui émanent généralement de gens de l'intérieur, des territoires occupés, qui expliquent que le Hamas, eh bien, c'est pas constitué que de gens qui sont islamistes, et il y a des gens tout à fait normaux entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix, qui sont donc des Palestiniens et qui veulent résister à l'occupant et qui n'ont pas d'autre choix de se tourner vers le Hamas, vu que le Fatah les a quand même trahis, vu la corruption qu'il y a eu, une corruption
vachement importante, et vu surtout qu'il y a eu une élimination des autres, on va dire, interlocuteurs.
Et des
par exemple, le FPLP a vu ses dirigeants assassinés, emprisonné. Pour le Fatah, il y avait d'autres leaders, d'autres hommes politiques qui étaient prêts à intervenir. Je pense par exemple à Marwan Barghouti, qui a été un des leaders de la seconde intifada, qui est aujourd'hui condamné à une peine incommensurable en Israël, qui ne sortira jamais de prison, évidemment. Donc des gens qui avaient la potentialité d'avoir un discours politique, d'avoir un impact sur les Palestiniens pour pouvoir organiser autre chose que cet affrontement sanglant qui est en train de se dérouler. Eh ben, ils ont été mis hors jeu, quoi. De fait que aujourd'hui, Beth Sahal, qui est le nom de l'armée israélienne, a beau jeu de se présenter comme le défenseur de l'Occident par rapport au tu l'as dit, aux méchants islamistes du Hamas.
Non, simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est pourquoi actuellement Israël envahit Gaza. C'est parce qu'il y a des élections. Très prochainement en Israël.
En février, ouais, je crois que c'est le 11 février.
Le 11 février, et que le Likoud...
qui est au pouvoir.
Non, qui n'est pas au pouvoir.
Qui voudrait bien y revenir.
Qui voudrait bien y revenir, était apparemment largement majoritaire dans les intentions de vote, et que le parti au pouvoir, dont je ne sais plus le nom, mais on va se rappeler tout à l'heure, puisqu'on va faire une présentation rapide de la situation telle qu'elle était en Israël au mois de septembre, avait besoin de faire un coup d'éclat par rapport au Hamas, justement, pour pouvoir gagner ces élections.
Oui. Ah, justement, tu nous parlais de... Parce que à cette antenne, on avait reçu Guy Davidi, qui venait donc d'Israël, qui est juif, qui est anarchiste, qui fait partie des anarches contre le mur, et qui donc était venu faire une tournée en France
avec Patrick, qui est un international.
Avec Patrick, qui est un international, et on avait fait une émission avec eux. Et de cette émission, je crois que on en a ressorti deux extraits intéressants, dont l'un nous retrace un peu la situation en Israël en septembre.
Voilà.
Peut-être que ça sera intéressant, justement, puisque les journaleux n'en parlent jamais, quasiment. On peut dire que les journaleux qui sont sur place, hein, depuis pas mal de temps, depuis au moins une quinzaine de jours déjà, n'en parlent jamais de ce qui se passe en Israël. Et bien voici. Donc, on va vous reproduire ce document.
Allez.
Justement, c'est quoi l'état de la société israélienne aujourd'hui ?
L'état de la société israélienne, c'est effectivement une société qui, tu me reprends si je me trompe, qui est comme pas mal et à la fois épuisée par cet effort de guerre, à la fois aussi devenue de plus en plus individualiste. Il faut savoir que on vit une situation d'un point de vue économique d'ultralibéralisme, hein, avec un racisme important au sein même de la société israélienne, parce que le vieux...
Entre qui et qui?
Alors attends, j'y viens parce qu'il y a plusieurs racismes. Il y a plusieurs racismes. Le premier des racismes, bien sûr, et il concerne les Israéliens vis-à-vis des Arabes israéliens, ce qu'on appelle les Palestiniens de 48, ceux qui sont restés, qui représentent environ 20% de la population. Au sein même de la société israélienne, il y a toujours le clivage entre Ashkenaz et Séfarad. Alors pour mémoire, les Séfarades sont les Juifs d'origine un petit peu du bassin méditerranéen, et les Ashkénazes sont ceux qui sont en fait d'origine un petit peu de l'Europe de l'Est. Bon, simplement pour information, en hébreu, Ashkenaz, ça veut dire Allemagne, et Sepharad, ça veut dire Espagne. Bon, voilà pour situer. Au sein même, en plus de cette société, qui est très clivée, malgré effectivement un des grands idéaux du sionisme de fabriquer un homme nouveau, un Israélien qui ferait abstraction de toutes effectivement les cultures d'origine, finalement c'est un échec total, faut être clair. Il y a un racisme particulièrement virulent vis-à-vis des Falachas. Les Falachas sont effectivement des juifs considérés comme tels, mais avec des difficultés par les rabbins, enfin je vous passe les détails religieux, que je connais pas trop d'ailleurs, mais qui en fait passent effectivement, sont noirs, hein, ils viennent d'Éthiopie, et puis voilà, c'est tout simple, et il y a un racisme énorme. Donc je vous parlais aussi effectivement de ce fameux racisme entre Ashkenaz et Sepharad, parce que à une époque, un Ashkenaz qui voulait insulter quelqu'un le traitait de Marocain, par exemple. Bon, il y a ça. Maintenant, il y a un nouveau racisme qui existe, simplement parce que il y a de tels communautarismes, c'est vis-à-vis en particulier des Russes, et à l'intérieur même de la communauté russe, qui est très importante, il y a aussi des racismes tant vis-à-vis des Biélorusses, que des Ukrainiens, que des Géorgiens. Tout ce monde-là, au final, est plus en situation non pas de vivre ensemble, mais de vivre côte à côte, de se côtoyer sans forcément se rencontrer. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'est une société qui est globalement malade, dont cette maladie, moi j'avais eu l'occasion de le dire à Denis au cours d'un précédent interview, il me semble, c'est une société qui est aussi globalement paranoïaque, dont cette paranoïa est largement entretenue par l'État, qui se sert entre autres de la guerre pour maintenir effectivement, bon, il s'en est servi, est-ce qu'il s'en sert moins, on en discutait tout à l'heure avec Guy, mais on est surtout d'abord et avant tout dans un problème de lutte de classe à un point tel qu'effectivement il y a des poches de pauvreté réelles, hein, au sein en particulier des communautés séfarades et puis des nouveaux arrivants en fait. Hein.
Tu disais 25%, c'est ça?
Ouais, de 25% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ouais. Sachant que ce seuil de pauvreté, il n'est pas, même s'il y a beaucoup à dire en France, j'en discutais tout pareil tout à l'heure avec Guy, c'est qu'effectivement, autant en France qu'il y a le RMI, on sait ce que ça vaut pour les gens, autant là-bas il n'y a rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les gens se débrouillent. Avec l'arrivée des Russes, il s'est trouvé qu'effectivement ce pays était tellement ultralibéral qu'effectivement que la Russie a fait en sorte, c'est surtout Israël qui a accueilli sans trop le savoir, 40, enfin une majorité de Russes dont en fait il s'avère que 40% ne sont pas juifs, faut le savoir, et qu'à l'occasion, effectivement, la Russie a exporté sa mafia. Maintenant, faut savoir que la mafia israélienne est tout aussi puissante en termes de moyens que ce qu'a pu être la mafia russe à une époque. Alors cette mafia, elle existe aussi à tous les niveaux, parce que moi, quand j'étais à Naplouse, j'ai discuté avec des Palestiniens qui me disaient qu'il y avait de l'ordre de 50 à 60% du parc automobile de Naplouse qui étaient des voitures volées en Israël. Sachant qu'effectivement, quand on passe les checkpoints de Naplouse, croyez-moi, on passe pas une voiture en contrebande comme ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a tout un tas de complicité parmi l'armée et ainsi de suite, qui est une réalité. La notion, par exemple, j'ai lu aussi une stat comme quoi Israël est un des pays les plus corrompus du monde. Ce qui fait, par exemple, qu'on se retrouve en situation où on peut acheter un M16 à 10 000 dollars pour alimenter le Hamas, vendu directement par les colons. Bon, on a des choses comme ça. C'est des trucs un peu délirants, mais bon, voilà, ça c'est l'état de la société israélienne. Plus personne ne croit vraiment aux politiques au sens institutionnel du terme. Les gens essayent de survivre un petit peu dans une optique un peu, on veut plus trop savoir ce qui se passe à l'extérieur parce que la politique nous apporte, au sens pareil institutionnel du terme, nous apporte plus rien. Et moi, de ma part, pour ce que j'en connais de la société israélienne, l'émergence sur la scène médiatique d'un groupe comme les anarchistes contre le mur me paraît particulièrement importante dans le sens où il s'avère que c'est un groupe qui fonctionne pas du tout en fonction des schémas traditionnels et préétablis de la politique politicienne israélienne, qui est complètement en dehors de ça. Et s'il y a bien des gens qui sont actuellement en capacité de tenter de peser sur effectivement la réalité du conflit israélo-palestinien, je pense qu'aujourd'hui c'est bien cela. Tout le reste un petit peu de ce qu'a pu être le mouvement anti-guerre, bon, je parle en particulier, je pense en particulier à Shalom Arshav, donc la paix maintenant, qui a comme été le mouvement qui a permis la sortie des troupes israéliennes du Liban en 82. Bon, ce mouvement, maintenant, bah, les individus, pour la plupart, ont décroché, se sont barrés, ou simplement sont rentrés dans le rang. Le mouvement en tant que tel n'existe plus. Existe maintenant, effectivement, sur la scène politique, bah, maintenant, c'est tout ce qu'on va pouvoir appeler toute la logique anticolonialiste, pour faire très large, de la gauche radicale, pour rester un petit peu de... Et il n'y a que ça, véritablement, qui existe, hormis, effectivement, les organisations, on va dire, droits de l'homme. Tels que B'Tselem et en particulier aussi les
femmes, je crois.
La coalition des femmes pour la paix, incluant en particulier les femmes en noir et les Mars on Watch. Tu veux bien expliquer ce que c'est exactement?
Mars on Watch, c'est une organisation pour de témoigner de ce qui se passe sur le checkpoint en Israël. C'est des femmes qui arrivent chaque jour pour un peu voir, être là, témoigner, et aussi pour un peu noter tout ce qui se passe dans ce point-là de passage.
Ouais, juste une petite précision, moi j'en ai rencontré, enfin, j'ai pas discuté avec eux, mais je les ai vus procéder. C'est assez intéressant, parce qu'en fait, qui retrouve-t-on au checkpoint? Des gamins de 18 ans, qui sont à l'armée pour 3 ans, qui se retrouve avec M16, complètement paumé, et qui se retrouve un petit peu dans une espèce de toute puissance à décider si oui ou non tel ou tel passera, oui combien de temps, tout de suite, peut-être pas, demain ou ce soir, voilà. Ça c'est le soldat type israélien, un checkpoint. Et dont ces femmes qui sont présentes là, ce sont des femmes qui en général ont un certain âge et qui peuvent très souvent être les mères, pourraient être les mères en termes d'âge. Et elles s'autorisent effectivement à reprendre ces gamins comme si c'était les leurs, en disant qu'on essaye de bien te conduire. Et là, effectivement, c'est assez intéressant parce que quand elles arrivent sur un checkpoint, elles font rien. Au mieux, moi, ce qu'elles font, c'est à la limite, c'est prendre des photos et à la limite interpeller tel ou tel soldat qui s'est mal conduit avec tel Palestinien qui passait à ce moment-là. C'est pas grand-chose, mais ça permet effectivement de calmer un peu l'espèce de toute puissance du soldat qui a un flingue et qui se croit tout permis.
Mais je veux rendre, parce que c'est ça, je pense, qui est très important dans le mouvement, je rends le mouvement des anarchistes contre les murs, parce que la plupart des organisations, des mouvements politiques, ils font des choses, ils essayent de suivre de l'occupation et d'essayer de réduire le résultat sur le terrain. Et les anarchistes contre les murs, c'est dans un cadre d'une lutte. Ça veut dire, on essaye de lutter ensemble avec les Palestiniens pour démanteler l'occupation en général. C'est ça qui était assez important, c'est qu'on lutte. Et même, je dis tout à l'heure à Patrick, moi personnellement, j'aime pas la politique d'Europe ou de l'Allemagne spécifiquement, par exemple, qui donne beaucoup d'argent, beaucoup de soutien pour maintenir des organisations, pour discuter entre, pour avoir des points de rencontre entre les Palestiniens, les Israéliens, qu'ils puissent parler ensemble, avoir ce qu'on appelle Dukium, coexistence,
vivre ensemble.
Donc on peut discuter, on peut résoudre nous-mêmes le problème sans la politique, et comme ça ça va disperser dans le pays. Mais c'est pour moi c'est des conneries, parce que quand il n'y a pas vraiment une implication sur le terrain, ce qu'ils font les anarchistes, donc ça sert l'autre sens, ça sert plutôt pour cacher de ce qu'il est fait en même temps.
Oui, non, mais effectivement, on écoutait avec attention ce que disait Patrick Egaille, et je crois que il y a quelques trucs qu'on peut relever, hein, par exemple, qu'on peut préciser, notamment sur la question de la guerre et de l'importance de la guerre dans la société israélienne. Il y a tout un chantier le gouvernement israélien, puisque il y a la Knesset qui est l'Assemblée, et en général, comme on ne peut pas dégager une majorité claire à la Knesset, on fait des gouvernements qu'on appelle de coalition nationale. C'est-à-dire que là-dedans, on retrouve des gens soi-disant, enfin de gauche, enfin de différents partis, etc., etc. Donc il n'y a pas forcément d'affiliation politique, mais c'est pour ça qu'on peut retrouver les mêmes gens à des moments différents, quoi. Par exemple, aujourd'hui, Ehud Barak, qui est le ministre de la Défense, était auparavant Premier ministre. Il appartient à un parti différent du Premier ministre, Ehud Olmert, qui normalement, à la fin de la législature, devrait passer en justice pour corruption. Mais bon, n'en revenons pas là-dessus. Patrice l'a bien dit, l'état de pourrissement de la société israélienne et de ses élites est vraiment impressionnant.
Ce qui explique dans la guerre. Hein,
tout
aussi,
à fait.
Hein.
Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est par rapport justement au fait qu'on dise, à la différence du Hamas et de la société palestinienne, puisqu'on le sait, hein, les Hamas c'est le méchant, Israël c'est les gentils, c'est une démocratie quand même, que diable. Ben, en fait, on pourrait s'interroger sur le caractère démocratique du gouvernement israélien, puisque l'ensemble des pouvoirs sont concentrés dans ce qu'on appelle le cabinet de sécurité, qui est en fait un gouvernement restreint, où on dégage les ministres annexes ou les gens qui ont des ministères sans portefeuille, ou à l'inverse, des gens qui ont une représentation symbolique, et qui eux vont prendre l'intégralité des décisions qui concernent la vie courante, à savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment on bosse, etc., etc. Et donc cet état de guerre permanent, il permet un état d'exception permanent, et un état d'exception permanente qui subordonne des conditions ou des questions qui sont censées régler la vie quotidienne, par exemple le paiement des fonctionnaires. Comme l'État israélien est un État qui est extrêmement endetté, il a beaucoup de mal à payer les fonctionnaires, ou la pension des retraités, etc., etc. Et ces questions qui seront entre guillemets des questions d'affaires courantes sont minorées ou sont éjectées par la question de la guerre, qui bien évidemment est beaucoup plus importante. Et en fait, c'est un grand classique de la politique, hein. Mais la guerre en général, elle se fait pas contre l'extérieur, elle se fait en général contre l'ennemi intérieur, ou en tous les cas contre son propre peuple. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, et comme le disait Patrick en parlant des anarchistes contre le mur, c'est pas innocent qu'il y ait des gens qui ressurgissent, notamment des gens jeunes qui n'ont pas forcément de passé politique. En effet, il y a une génération qui arrive il y a une génération qui est en train de se passer, le temps des constructeurs de l'État Israël, le temps des gens qui avaient cru au projet sioniste, qu'ils soient de droite ou de gauche, hein, parce qu'il y avait des sionistes de gauche ou des gens qui à l'intérieur des kibbutzim,
c'était la gauche que, au départ, c'est la gauche travailliste qui a été très longtemps à la tête de l'État d'Israël.
On va peut-être faire une pause musicale, et puis comme on a parlé des anarchistes contre le mur, on a des informations sur ce qu'ils font tous les jours, on peut dire, en Israël, et on va vous en faire part après, puisque vous allez voir, ça bouge beaucoup en Israël contre la guerre, et il y a des tas de choses qui se font.
التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم
Vous êtes de retour sur Radio Grenouille. Et vous venez d'entendre Unadikoum du chanteur libanais Ahmad Kabour. L'émission Offensive Sonore en soutien à la Palestine se poursuit. Dans cette seconde partie, Gaël, membre du collectif des anarchistes contre le mur, revient sur la création de ce collectif et sur les actions qu'ils ont menées en Israël depuis sa création en 2003.
Oui, alors bon, on sait qu'au niveau français, au niveau international, il y a des manifestations. Il y en a même eu une belle à Reims, j'ai trouvé. 400 personnes à Reims samedi dernier. C'est quand même pas mal, avec une majorité, on peut le dire, de communautés maghrébines, hein, mais n'empêche qu'il y avait plus de 400 personnes sur Reims, c'est quand même assez rare à signaler. Il y a eu d'autres manifestations dans toute la France. Par contre, sur le terrain, là-bas, eh bien, on peut dire que depuis le début, même avant, la veille de l'opération, il y a eu des tas de gens qui ont manifesté en Cisjordanie, mais aussi à l'intérieur de l'État d'Israël. Les anarchistes contre le mur ont participé, ont été arrêtés plusieurs fois. Actuellement, il y en a qui sont en prison. Ce qu'on sait, c'est que il y a eu dès le dimanche dernier, c'était pas le dimanche, c'était donc le dimanche 28 décembre. Le dimanche 28 décembre, il y a eu déjà 1000 personnes à Tel Aviv. Où il y avait donc à Tel Aviv, ce ne sont que des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne, mais eux aussi des Israéliens qui sont juifs, donc qui ont manifesté ce dimanche 28. Le 29, il y a eu encore tous les jours, il se passe des choses là-bas, que ça soit en Israël ou dans les territoires occupés en Cisjordanie, avec les anarchistes contre le mur qui essayent de faire le lien finalement entre les Israéliens de l'intérieur et les Palestiniens qui sont dans les territoires occupés. Il y a eu le vendredi 2 janvier une action terrible pour Israël, puisqu'on peut la vivre sur Internet, puisqu'ils en ont fait une vidéo, ils sont très forts à ce niveau-là. Il y a une vingtaine de membres donc de ce groupe qui s'est pointé à 6h du matin devant les portes de la base aérienne des avions qui bombardent Gaza. Ils étaient donc maquillés avec des en blanc
blanc avec du sang sur eux. Ils se sont allongés par terre, etc. Ça a bien duré plusieurs, peut-être 10 ou 15 minutes avant qu'ils se fassent arrêter, puisqu'il y en a 21 qui ont été arrêtés. J'espère qu'ils ont été libérés. On n'en sait pas plus actuellement à ce jour. Voilà, ce qui fait qu'il y a des actions de ce type qui ont été faites tous les jours en Israël, qui prouvent bien qu'il y a dans la société israélienne et bien des fissures, et il faudrait justement faire en sorte que ces fissures deviennent de plus en plus importantes. Voilà.
Je crois que c'est fondamental, effectivement, puisque tu l'as dit, il y aura une nouvelle journée d'action certainement internationale, je pense, le samedi 10. Donc, il est important de se renseigner pour savoir si dans sa ville il va se passer quelque chose. Bon, bien évidemment, il y aura la manifestation parisienne, mais je pense qu'à Reims, à Toulouse et à Montpellier, il y aura au moins des rassemblements, si ce n'est des manifs. Mais parce que la question qu'on va se poser, c'est assez rapidement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Aller manifester, bien sûr, c'est extrêmement important, mais je pense malheureusement que ça ne va pas suffire. Et il va falloir, je l'ai dit au début de l'émission, analyser la situation en termes politiques, ne pas tomber dans le piège qui risque de se tendre assez rapidement de l'affrontement entre communautés, savoir d'un côté une communauté juive et de l'autre une communauté qui serait musulmane. Nous, ici, on est anarchistes et révolutionnaires, on est athées et rationalistes, et c'est en fonction de ces critères-là qu'on défend et qu'on est solidaire avec les Palestiniens. C'est pas en fonction d'autres critères, quoi. Et donc, c'est vachement important de relayer ces initiatives-là et de démontrer que ces blocs qu'on voudrait nous présenter assez facilement, bien sûr, puisque ça permet de dédouaner les vraies responsabilités de ce conflit, ne sont pas aussi massifs qu'on devrait le croire, et qu'il n'y a pas de consensus.
Ouais, alors donc là simplement ce que je voulais, on a dit qu'on avait une deuxième partie. La Palestine, c'est pas seulement Gaza, c'est aussi la Cisjordanie. Vous savez qu'il y a un mur qui s'est érigé entre Israël et la Cisjordanie. C'est de là que sont nés les anarchistes contre le mur. Et là, on vous repasse un morceau de ce que nous racontait Guy par rapport à leur action contre le mur, etc. quoi.
Ok, c'est je suis un réalisateur, un documentariste de films. Je commençais à réaliser des documentaires autour aussi en même temps que le début des mouvements d'anarchistes contre les murs, qui était né le 2003. Et depuis là, c'est en fait avec ma vie, c'était la même. On a fait la même route avec ce mouvement. Et moi, j'ai fait des films, des documentaires sur le sujet qui est lié aussi avec ce mouvement. Et voilà, je suis là pour présenter le film qui s'appelle « In Work in Progress ».
Et justement, parle-nous un petit peu de ce film en quelques mots.
« In Work in Progress », c'est un film qui s'occupe de des ouvriers palestiniens dans une colonie qui s'appelle Modin Elite. Maintenant, il y a deux ans, que c'est la plus grande colonie en Cisjordanie. C'est une colonie aussi qui a grandi la plus vite en général en Israël depuis le début, depuis les 67, la guerre de 67. Et elle a plus de 50 000 habitants. Et ce qui était fait, c'est que c'était un moment où, quand on a fait ce film, c'était le même temps de désengagement. Donc la politique d'Israël sur le média, c'était de dire qu'on essaye de reculer, on essaye d'avoir la paix dans ces régions et on essaye d'arrêter l'occupation par reculer des terres de Palestiniens. Mais la vérité, c'était pas du tout exact, parce que sur le terrain de la bande de Gaza, c'est vrai qu'il y avait un changement de terres, mais aussi Jordanie, il y avait aussi en même temps un très grand élargement de colonies. Le Modin Elite, c'était grandi beaucoup dans ce temps-là, donc c'est lié aussi avec la construction du mur. Et mais aussi, ces films, ils aussi, ils concentrent sur cette construction, cette opération de construction pendant cette époque-là.
D'accord, c'était en 2004, 2005.
C'était 2005.
D'accord.
L'été de 2005.
Oui, il faut simplement aussi préciser que c'est tout le paradoxe un peu de cette situation, c'est qu'il se trouve que ce sont finalement les Palestiniens qui sont exclus de leurs terres et qui sont contraints, pour des raisons de travail, simplement pour manger, d'aller construire eux-mêmes les colonies. Donc voilà dans quel paradoxe nous nous trouvons. Il faut préciser, donc, bon, Gail en dira peut-être un peu plus, ça veut dire que concrètement, Modin Elit, c'est effectivement cette colonie qui grandit et énormément. Et surtout, c'est l'endroit où le mur passe, pas très loin, et où effectivement ont lieu maintenant depuis plusieurs mois, tu me reprendras, une lutte exemplaire sur Bilin. Bilin, c'est une lutte qui est assez intéressante dans la mesure où, en fait, cette lutte lie à la fois les Palestiniens des comités populaires, lie les anarchistes contre le mur, les anticolonialistes et les internationaux. Donc ça veut dire que concrètement, toutes les semaines, une manifestation a lieu le samedi, je crois.
Le vendredi,
et toutes les semaines, effectivement tous les vendredis, il y a plus ou moins des affrontements à cet endroit, et ce maintenant depuis plusieurs mois.
À Bilin, ça fait 3 ans et demi.
Voilà.
3 ans et demi, c'est pas quelques mois.
D'accord.
3 ans et demi.
3 ans et demi,
ça commençait le février de 2005. Donc 3 ans et demi, ils continuaient de lutter contre la construction du mur. Pendant cette époque, ils ont vu le mur qui était construit, et ils ont continué même après pour ils ont aussi vu un réussite dans la tribune d'Israël tribunal d'Israël juridique qui a décidé de faire revenir quelques dunams, quelques parties de ces terres qui étaient confisquées, pas tout, et ça n'était pas encore impliqué sur le terrain. Il y a un an, plus qu'un an, que c'est encore, ça reste toujours en même temps. Donc ils ont vécu beaucoup de histoires, et ils restent toujours continuant toujours de lutter chaque vendredi. Il faut dire qu'il y a, on va parler sur ça, j'imagine, après, mais il y a aussi d'autres villages qui ont commencé, il y avait d'autres villages qui ont commencé cette lutte, et c'est Bilin qui a pris cette lutte pour être comme un modèle pour les autres villages pour lutter. Il y a d'autres villages après, même pendant cette époque, qui ont commencé de lutter contre le mur. Normalement, ça se passe quand le tracé il arrive à côté de sous ces terres, il commence de lutter. Et là, il y a 4 mois que ça a commencé d'être très très agité à Anailin, qui est un village qui est 10 kilomètres de Bilin, pas très loin, qui aussi il y a de terres qui privées qui étaient confisquées de ces villages pour construire le mur. Et c'est dans cette lutte, c'est une lutte très très violente sur le terrain, dans les manifestations. Ça veut dire que l'armée il agit très très avec beaucoup de violence sur le terrain. Il y avait deux jeunes qui étaient morts pendant ces 4 mois. Il y avait un enfant de 9 ans et un jeune homme de 17 ans qui était mort par des balles vraies.
Je crois que d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu lire, tu vas me dire si j'ai dit des bêtises, depuis le début de la construction de ce mur, ça fait 12 jeunes Palestiniens qui ont été tués, et il y a eu des centaines et des centaines de blessés et de blessés.
13. Avec le derrière, c'est 13.
C'est 13, d'accord. Et vous, comment que ça se passe? Parce que vous êtes du côté israélien. Ah, excuse-moi Camille, vas-y.
Ah non, parce qu'on était parti sur le mur. Moi, je vous avais une question à lui poser sur le mur. Donc le mur, c'est une construction entre Israël et la Cisjordanie, et pas Gaza. Ce mur fait 780 kilomètres. Or, il n'y a pas 780 kilomètres de frontière entre Israël et la Cisjordanie. Donc, parce que j'aimerais bien que tu expliques, moi, j'ai un peu compris parce que j'ai vu des films là-dessus, comment ça fonctionnait, pourquoi ce mur est aussi long, alors que la frontière, c'est à peu près la moitié, mais je sais même pas si c'est la moitié de cette distance.
Premièrement, on dit que c'est un mur, mais c'est pas toujours sur le terrain un vrai mur. Mmh. Des fois, c'est de barbelés ou...
Clôture électrique.
Comment ?
Une clôture électrique.
Ça dépend le lieu. Dans les villes, c'est normalement des murs du béton. Et bon, ça, c'est sûr que cette mur, c'était pas bâti pour donner la sécurité pour l'Israël. C'était une nouvelle manière, une nouvelle technique pour confisquer des terres qui sont très très riches, importantes, parce que c'est des terres de l'ouest de la Cisjordanie. Qui sont riches de l'eau, de ressources, de terres qui sont cultivées. Et il essaye d'annexer des colonies qui sont pas légales par la loi internationale. Et donc c'est pour ça qu'il entre dans différentes routes dans la Cisjordanie pour confisquer plus de terres, plus de colonies, plus de ressources possibles.
Pour répondre en partie à ta question, Camille, si le tracé du mur apparaît plus long que n'est véritablement la frontière, il faut savoir de quelle frontière on parle. On parle de la frontière qui était ce qu'on a appelé longtemps la ligne verte. La ligne verte, c'était effectivement la frontière de fait qu'il existait entre la Jordanie et Israël au 2 juin 67, avant la guerre des six jours. Depuis la guerre des six jours, les différents gouvernements israéliens, que ce soit de droite ou de gauche, enfin c'est très simple, là-bas c'est soit les conservateurs, soit les travaillistes, ce qui finalement au final est exactement les mêmes, ont tous fait en sorte de développer la colonisation. La colonisation, il faut aussi remonter plus haut dans ce que peut être l'État d'Israël. L'État d'Israël, et Guy va me reprendre si je me trompe, a un ministère très particulier, c'est le ministère, en fait, on va l'appeler de l'intégration. C'est un ministère qui est chargé essentiellement de financer et d'accueillir les différents, on va dire, les gens, ce qu'on appelle en hébreu, les olim, ceux qui veulent effectivement monter en Israël. Bon, les colons, on va dire. Bon. Et là, quelles que soient les circonstances budgétaires ou historiques ou politiques, depuis la création d'Israël, c'est un ministère dont les finances n'ont jamais été en baisse. Bon, ça c'est la première chose. La colonisation s'est donc faite progressivement, où maintenant on en arrive, comme a toujours fait l'État d'Israël, sur une politique du fait accompli. Le fait accompli, c'est créer des colonies. Alors effectivement, faire croire que c'est du provisoire, faire croire que c'est qu'on n'aurait pas dû, mais qu'on le fait quand même, parce que, comme par hasard, on a effectivement une augmentation démographique, et c'est l'augmentation naturelle. Résultat des courses, ça veut dire que maintenant il existe au moins, et pour je parle effectivement des plus importantes, trois gros blocs de colonies, qui sont Sharon, Ariel et Gush Etzion, et qui effectivement sont en situation.
Sharon, c'est en Israël.
Maladounim, voilà, excusez-moi. Et en fait, ces colonies se retrouvent effectivement derrière la ligne des quêtes de cessez-le-feu, donc d'après 67, et mordent carrément, sur plusieurs kilomètres, effectivement, sur le territoire historique de ce qu'était la Cisjordanie. Ce qui fait, parce que bon, j'ai vu le mur sous toutes ses coutures, j'ai vu effectivement des grands blocs de béton de 8 mètres de haut, comme j'ai pu voir des barrières électriques de 3 épaisseurs, enfin bon. Et effectivement, il se trouve que ça crée des tracés, mais je veux dire carrément en zigzag par certains endroits, simplement pour intégrer les terres de ces colonies ou les futures terres. Celles qui, effectivement, les terres pour lesquelles il y a encore, qui appartiennent de fait toujours aux Palestiniens, mais pour lesquelles, effectivement, Israël envisage à terme de les annexer. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on arrive effectivement à des entrelacs pas possibles. Ce qui est, à mon avis, le plus flagrant, c'est au nord de Jérusalem, dans un quartier qui s'appelle Abou Dis, où là, effectivement, on se retrouve avec des situations, carrément de zigzag du mur, en plein milieu des quartiers arabes.
Alors, il y a une question que je voulais te poser, parce que tu me disais qu'en fait, en Israël, c'est soit les conservateurs, soit les travaillistes. Les travaillistes qui sont supposés être de gauche. Alors, à qui revient l'idée de cette construction du mur? Parce qu'on a l'impression que c'est les conservateurs qui ont eu cette idée de construire le mur. Apparemment, c'est pas le cas.
Cette idée était née dans le parti de travaillistes. Dans un ministre actuel qui s'appelle Chaim Ramon, et celui qui avait cette idée de séparation entre les terres. Mais c'était amené après par le gouvernement de Kadima et Sharon. Puis maintenant, avec lui-même, Chaim Ramon, il est passé comme Shimon Peres, par exemple, de parti politique travailliste, qui maintenant est très très petit et ils sont très peu nombreux. Ouais. Et donc, c'est eux qui ont pris cette idée pour impliquer sur le terrain, et plutôt comme une bonne idée pour continuer cette initiative d'élargir dans le Cisjordanie. Si c'était une séparation pour créer deux États, ça a dû être un mur sur la ligne verte.
Tout à fait. Puis en plus, il serait plus ou moins droit, comme beaucoup de frontières préfabriquées, comme on en a en Afrique, par exemple, au niveau de la fin du colonialisme français. Bon, c'est clair que là, c'est pas du tout pour créer deux États. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait, ce groupe des anarchistes contre le mur, puisque c'est né au sein de la société israélienne?
C'était l'été de 2003, il y avait un campement à Masra, dans un village qui s'appelle Masra, et ils ont créé cet endroit pour faire un point de rencontre entre l'Israélien et les internationaux et le Palestinien, le villageois, qui est affectué par le mur, qui a déjà été mis en place. Et ce projet, il a déjà commencé d'être fait. En fait, la construction de la mur a commencé au nord et a descendu plus au sud. Et quand c'était arrivé à Masra, ils ont commencé de manifester. Et c'est là, de ce point-là, 2003, que ce mouvement était né. Et c'est des jeunes israéliens qui ont décidé de manifester, de joindre dans toutes les manifestations de villageois, à coopération avec le comité populaire dans différents villages pour manifester contre les murs. Et donc ça marche comme quand le tracé ou quand un village décide de manifester, de lutter contre le mur, il les rejoint. L'initiative reste toujours chez les Palestiniens parce que c'est eux qui payent le prix le plus cher dans cette lutte. Il n'y avait jamais un Israélien qui était tué dans ces manifestations. Il y avait, comme on a dit, 13 Palestiniens qui étaient morts, beaucoup de blessés. Et c'est important de y être sur le terrain dans ces manifestations, parce que même les règles de pour tirer de l'armée, il change quand il y a des Israéliens ou quand il n'y a pas des Israéliens, parce que quand il y a des Israéliens, les soldats ils sont beaucoup plus attentifs, ils utilisent des balles de caoutchouc, que c'est aussi ça peut tuer, mais c'est encore moins grave que des balles vraies. Donc notre présence sur le terrain, c'est important, c'est une question de vie ou mort.
Oui, alors moi, ce que je voulais te demander aussi, c'est que le groupe s'appelle Anarchist Against the Wall, Anarchiste contre le mur, et en fait, tu l'as dit, tu l'as bien décrit, c'est des groupes de jeunes, il y a beaucoup de jeunes dedans. Toi, tu as un parcours quand même déjà assez long, puisque en fait, tu es au départ refusnique, objecteur de conscience, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi vous avez employé ce terme anarchiste? Est-ce que ce sont des anarchistes qui ont décidé de se bouger contre le mur, ou est-ce que c'est des gens qui ont décidé d'utiliser ce sigle-là parce que c'était quelque chose dans lequel ils se reconnaissaient?
Et le cœur de ce mouvement, c'est des vrais anarchistes. Des vrais anarchistes qui étaient... qui avaient toutes ces idées de anti-mondialistes, de anti-autoritaire. C'est, on a toujours la même idéologie qui, enfin, après il y a des différences entre nous et entre les mouvements, mais on s'occupe pas seulement sur l'occupation. Mais c'est vrai que ça, la question de l'occupation, ça, elle est si grave dans ce pays que c'est, notre lutte s'est concentrée sur cet aspect. Mais c'est le cœur de ce groupe, c'est des anarchistes qui sont anti-autoritaires, qui anti-mondialistes. Après, il y a de différentes gens qui participent dans la manifestation contre le mur, qui sont pas nécessairement anarchistes ou même qui savent pas exactement ce que c'est anarchiste ou libertaire aussi, parce que c'est une chose qui est assez nouveau en Israël. C'est une très jeune société. Même l'autorité, elle existe pas beaucoup assez de temps pour qu'on s'organise pour lutter.
Okay. Donc, et ça a du succès, ça marche bien, les gens sont sensibles.
Ça, dans 5 ans des activités, hein, tout le monde le connaissait déjà, les anarchistes, donc on arrive à changer le débat dans la société israélienne, on arrive de changer sur le terrain plus ou moins.
Et comment vous êtes perçu, justement par la société israélienne? Comment les gens, les médias, les gens de base, la police, l'État, ils vous perçoivent, hein? Est-ce qu'il y a une grosse répression? Est-ce que...
Une partie de ces luttes, c'est de médiatiser ces luttes, de monter un débat qui n'existe pas en Israël. Il n'y a pas un débat sur le mur. Le mur, il était né pour la sécurité des Israéliens, puis c'est tout. Le tracé, il s'intéresse personne en Israël. Il n'y a pas même dans les journaux, même dans le public, c'est pas un débat. Donc pour nous.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Avant de rendre l'antenne, sortez vos agendas pour noter quelques rendez-vous. Cet après-midi se tiendra à 17h à Marseille une petite causerie au CIRA, le Centre International de Recherche sur l'Anarchisme. Jean-Marc Delpech, auteur de Alexandre Jacob, l'honnête cambrioleur, paru aux éditions de l'Atelier de création libertaire, animera une petite causerie sur cet anarchiste originaire de Marseille. Donc rendez-vous cet après-midi à 17h au CIRA, qui se situe 3 rue Saint-Dominique à l'angle de la place des Capucines, dans le 1er arrondissement. Notez également que se déroulera un apéro-débat le vendredi 27 février à 18h30 à Millebabord. Dans le cadre de la campagne fédérale d'Alternatives Libertaires, résister contre-attaquer, le groupe marseillais vous invite à un apéro-débat sur le thème « La peur doit changer de camp ». Lors de ce débat, AL tentera de répondre à des questions comme « Comment unifier les luttes trop souvent dispersées ?» Comment obtenir des victoires concrètes? Quelles alternatives politiques mettre en œuvre? Le rendez-vous est fixé vendredi 27 février 2009 à 18h30 au local Millebabord, situé au numéro 61 de la rue Consola dans le 1er arrondissement de Marseille, accès par le métro réformé ou le tram station nationale. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres rendez-vous militants sur Marseille sur le site web de Millebabord, la médiathèque alternative de Marseille à l'adresse suivante, millebabord.org. Enfin, dernière info mais non la moindre, je vous signale que le numéro 21 de la revue Offensive est disponible en kiosque. Pour les auditeurs qui ne le savent pas encore, avant d'animer une émission de radio, le groupe Offensive Libertaire et Sociale édite d'abord une revue trimestrielle qui s'intitule Offensive. Le dernier numéro, le 21, vient de paraître avec un dossier consacré à l'enfermement, et j'encourage d'ores et déjà les auditeurs à se la procurer. Enfin, le prochain numéro, qui est en cours de préparation, portera sur le thème de la ruralité et de la paysannerie. Si vous souhaitez trouver la revue, deux solutions, soit en kiosque ou bien sur Marseille dans les librairies suivantes. L'Odeur du Temps, Bookin, Les Portulans, la librairie Maupetit, le local Millebabord ou bien au local Monnaie de Singe. Pour finir, je vous rappelle que cette émission a été réalisée par le groupe Offensive Libertaire et Sociale de Marseille. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions précédemment diffusées sur le site web de La Grenouille en podcast à la page Offensive Sonore. N'hésitez pas à y faire un tour pour plus d'informations ou pour trouver nos contacts. C'est déjà l'heure de se quitter, mais avant de rendre l'antenne, on va se passer un petit morceau qui booste pas mal. Que vous soyez à la maison, en bagnole ou n'importe où ailleurs, poussez le volume de votre poste à fond. On s'écoute Creedence Clearwater Revival avec Fortunate Son. Merci à toutes et à tous. On se retrouve le mois prochain à la même heure. Ciao, ciao.